Lors de notre voyage de noces, Laura et moi sommes allés en Grèce et nous avons passé quelque temps, notamment à Athènes. Alors, tous ceux qui me connaissent bien savent que je ne raffole pas des visites des lieux touristiques ou de la contemplation de tel ou tel monument, encore moins s'il s'agit de visites guidées. Et ce jour de mois d'août, dans la capitale grecque, ne faisait pas exception. Je m'ennuyais ferme. Avec, bien sûr, malgré tout, je vous rassure, le plaisir de partager ces moments avec ma jeune épouse, qui était passionnée d'ailleurs par ce qu'on lui racontait. Mais bon, quand tout à coup, durant un bref moment, je fus sorti de ma torpeur. Car voici que nous venions d'arriver près de l'Aréopage, dans ce lieu même où, comme on vient de le lire, Paul, quelques 2000 ans plus tôt, avait prononcé ce fameux discours face aux Athéniens. Ce Dieu inconnu que vous révérez ainsi sans le connaître, moi, je viens vous l'annoncer. Waouh! Quelle sensation que d'être présent à cet endroit. Il faut dire que cet épisode de la vie de Paul suscite chez moi une certaine admiration. Admiration, car il est à mes yeux une démonstration exceptionnelle de cet art, au nom certes un peu barbare, mais si important de la vie chrétienne, l'art de l'apologétique, c'est-à-dire en termes plus courants, l'art de défendre sa foi, du mot grec apologie qui veut dire défendre. Oui, témoigner de sa foi et défendre la validité de sa foi, voici ce qu'a fait Paul à Athènes, au milieu de l'Aréopage où il avait été conduit. Et oui, j'avoue, ça m'impressionne un peu. Sans doute peut-être parce que je me trouve de mon côté très insuffisant dans la pratique de cet art auprès de ceux qui m'entourent. Sans doute parce que je trouve cela tellement difficile. Mais peut-être suis-je le seul parmi nous. Mais oui, difficile pour moi de saisir les bonnes occasions. Et quand on a en plus une personnalité très réservée, c'est un véritable défi. Ou difficile ensuite de savoir quoi dire. Voire même difficile de savoir quand s'arrêter les rares fois où on a réussi à commencer. Et je me souviens encore, pour l'anecdote, d'une soirée pendant mes années au GBU où j'ai exposé le message de la bonne nouvelle pendant des heures à une jeune étudiante qui comprenait à peine le français. Et puis enfin, et surtout peut-être, et c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui, difficile aussi de savoir quoi répondre face à certaines questions inévitables qu'on nous pose immanquablement. Mais si ton Dieu existe, pourquoi le mal et la souffrance? Ou encore, comment peux-tu être sûr que c'est toi qui as raison? Après tout, toutes les religions ne prétendent-elles pas la même chose? Et ainsi de suite. Et alors du coup, parce que c'est difficile, eh bien, on préfère souvent se taire. Mais peut-être, encore une fois, suis-je le seul? Pourtant, on s'en doute, ce n'est pas non plus la solution. Car l'apologétique est tellement importante. Défendre la pertinence de notre foi est tellement important. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Disait encore Paul. Aussi, puisque c'est à la fois si difficile et si important, je souhaiterais vous proposer ce matin et à plusieurs autres reprises une réflexion sur ce thème. Mais en l'abordant, non pas tant sous l'angle de comment témoigner, même si c'est une question essentielle bien sûr, mais pour ce qui me concerne donc, à l'accent plutôt vraiment sur cette problématique de la défense de la crédibilité de notre foi face aux objections que le monde nous présente. parce que je crois que cela aussi est essentiel pour notre témoignage. Et donc, dans cet objectif, je vais dire aujourd'hui d'abord quelques mots sur la pertinence pour nous de se poser de telles questions, d'avoir une telle réflexion. Puis ensuite, nous verrons ce qu'on peut mettre pratiquement derrière ces choses-là. Et enfin, pour terminer ce matin, nous regarderons, à travers les deux autres textes qu'on a lus, quelques conditions préalables essentielles pour une défense efficace. Je démarre donc. L'apologétique, c'est-à-dire, je le répète, la défense de notre foi face aux arguments qui veulent la réfuter. L'apologétique a plusieurs branches, en fait. Elle peut être scientifique, c'est-à-dire utiliser ce que dit la science pour en déduire des arguments pour l'existence de Dieu et pour la foi chrétienne. Elle peut être encore philosophique, comme l'a fait un peu Paul, je crois, à l'Aréopage, et utiliser des raisonnements plus existentiels pour Dieu et le christianisme. Ou encore, elle peut être historique ou archéologique, et chercher à attester, par exemple, de la crédibilité des textes bibliques, et ainsi de suite. Mais en tout cas, quel que soit le domaine étudié, on peut être sûr d'une chose, c'est que cela va nécessiter pour nous une certaine dose de connaissances, de recherche, de réflexion ou d'argumentation. L'apologétique, on est d'accord, vient rarement naturellement. Mais alors du coup, on pourrait à juste titre se poser la question de la pertinence de cet effort-là. Car après tout, ne sommes-nous pas ici dans le domaine de la foi ? Ne sommes-nous pas invités à croire comme un petit enfant, à faire juste confiance? Autrement dit, avons-nous vraiment besoin de nous embarrasser de toutes ces réflexions? Science, philosophie, archéologie? Sérieusement? Ne pouvons-nous pas juste écouter notre cœur? Et la question fait mouche, effectivement. Et sans aucun doute, elle mérite d'être reçue et entendue. Nous y reviendrons plus loin. Mais malgré tout, je crois que l'apologétique est quand même plus que pertinente. Pour deux raisons, en fait. D'abord, bien évidemment, à cause de ceux qui nous entourent. Car même si nous, nous estimons peut-être, je ne sais pas, que la science ou l'histoire n'ont que peu de valeur dans la réalité de notre foi. Il nous faut bien reconnaître qu'il n'en est pas ainsi pour la plupart de nos contemporains. Et qu'au contraire, ces interrogations sont bien souvent aujourd'hui un frein majeur pour beaucoup. Ou en tout cas, ce sont de bonnes excuses toutes prêtes pour éviter d'aller plus loin. Pas pour tout le monde, je suis d'accord. Mais malgré tout, dans notre société qui veut traiter de la foi comme de n'importe quel autre sujet, c'est-à-dire en réclamant des preuves empiriques et des raisonnements solides pour y adhérer, l'apologétique est nécessaire. Alors bien sûr, ne prenons pas peur, je ne dis pas qu'il faille devenir un éminent spécialiste dans chacun de ces domaines-là, heureusement, mais peut-être juste d'oser faire quelques pas dans ce sens-là, pour savoir comment répondre avec à propos à chacun, comme le disait Paul. Ou comme rajoute Pierre, si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre. Il est important de se tenir prêt. Et puis, une deuxième raison pour creuser ces questions-là, qui me paraît elle aussi essentielle, c'est tout simplement pour nous-mêmes. Oui, oser nous confronter à ces questionnements, pas toujours simples. Oser approfondir le pourquoi on croit cela et pas autre chose me semble effectivement une démarche intéressante pour la bonne vitalité de notre foi. Défendre notre foi à nous-mêmes quelque part. Faire face à nos propres interrogations. Timothy Keller, dans son excellent ouvrage « La raison est pour Dieu », dit cela avec beaucoup de perspicacité. une foi dépourvue de doute, dit-il, est semblable à un corps humain privé d'anticorps. Les gens qui traversent allègrement la vie, trop occupés ou trop indifférents pour se poser des questions difficiles sur les raisons pour lesquelles ils ont certaines croyances, se trouveront démunis lorsque surviendra une tragédie ou face aux questions profondes d'un sceptique à l'esprit vif. La foi d'un individu peut s'effondrer du jour au lendemain si, au fil des années, il a négligé d'écouter patiemment ses propres doutes qui ne doivent être écartés qu'après une longue réflexion. Alors il y va probablement un peu fort. Mais son argument mérite néanmoins d'être entendu. D'ailleurs, plus loin dans son livre, il ajoutera que cette démarche est éminemment positive, car, dit-il, elle ne pourra que nous faire gagner en clarté. En clarté dans ce que nous croyons et pourquoi nous y croyons. Et donc, sans aucun doute aussi, gagner en maturité. À titre personnel, je peux témoigner à ce sujet de l'importance que ce genre de démarche a eue dans mon parcours de foi. Une démarche entamée, certes, un peu de force. Le jour où une question délicate s'est jetée sur moi. Mais après tout, pourquoi c'est toi qui aurais raison? Et c'est une question qui m'a déstabilisé. Mais une démarche qui m'a poussé à creuser en profondeur pour défendre ma foi. Et qui, je crois, m'a beaucoup apporté. Alors bien sûr, là encore, je ne dis pas qu'il faille rechercher des crises dans la foi pour avancer. Mais je dis que, dans le cadre privilégié de l'Église, il peut aussi y avoir la place pour avoir ces questionnements ensemble. Dans le but d'être fortifié dans notre foi et dans notre confiance, comme en parlait Laura, dans notre confiance dans le Dieu de la Bible. D'être fortifié pour nous-mêmes, donc, et fortifié aussi pour notre témoignage. C'est en tout cas humblement l'objectif de cette petite série. Voilà, pour cette question de la pertinence de l'apologétique pour nous aujourd'hui, et rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'entendons-nous donc concrètement par défendre notre foi? Qu'entendons-nous quand on est en train de parler et de mettre en avant des arguments censés défendre ce que nous croyons? Dit un peu autrement, la foi chrétienne peut-elle être prouvée, démontrée? Ou au contraire, pour ses opposants, peut-elle être démontée? Alors soyons-en sûrs, ni l'un ni l'autre. Si vous cherchez des arguments indiscutables, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire des arguments prouvés rationnellement par la logique ou empiriquement par l'expérience, des arguments que toute personne jouissant de ses facultés de raisonnement ne pourrait en aucun cas rejeter avec honnêteté, eh bien, vous n'en trouverez pas. Non, ce n'est pas de preuves ou de contre-preuves dont on veut parler ici. Mais c'est plutôt d'indices, et vous noterez la nuance. Voire même, et c'est là que ça va devenir intéressant, de faisceaux d'indices. D'ailleurs, il faut être conscient que nombre de théories acceptées aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, même scientifiques, fonctionnent de cette manière-là. Elles sont acceptées non pas parce qu'elles sont prouvées, mais parce qu'elles intègrent mieux les indices et expliquent mieux les faits que toute autre théorie imaginable. Et c'est ce qu'on veut faire ici. Partir à la recherche du faisceau d'indices en faveur du Dieu de la Bible. Un faisceau d'indices qui pourra venir nous faire dire « Voilà pourquoi je suis chrétien ». Je vous invite à aller dans cette direction. Alors bien sûr, on s'engage ici dans un vaste chemin. Au cœur, on l'a dit, de la science, de la philosophie, de l'archéologie, mais aussi de la théologie, de la morale ou encore de l'expérience. Et bien évidemment, nous ne pourrons pas tout en dire. D'abord déjà parce qu'il y en aurait trop et qu'on s'y noierait sûrement. Et puis aussi parce que ça deviendrait vite parfois très compliqué, réservé aux spécialistes de chaque domaine que nous ne sommes pas. Oui, c'est certain. Mais néanmoins, je crois qu'on peut malgré tout faire un premier tour d'horizon qui nous en dira déjà beaucoup. Personnellement, c'est donc ce que j'ai fait il y a une dizaine d'années, en m'appuyant sur de nombreux ouvrages sérieux, aussi en écoutant plusieurs voix. Et je voudrais donc vous présenter quelques arguments que j'y ai trouvés et qui m'ont vraiment convaincu. Avec forcément une part de subjectivité, bien sûr, dans les choix que j'ai faits sur ce qui me paraissait le plus pertinent. Mais je pense néanmoins avoir relevé les arguments majeurs, ceux qui reviennent toujours en tout cas, et qui, je l'espère, pourront aussi vous encourager. En fait, j'aimerais vous proposer un découpage en 4 domaines et j'aimerais, à partir de l'automne, consacrer une prédication pour chacun d'entre eux. De bonnes raisons de croire pourrait s'appeler cette série. De bonnes raisons de croire au Dieu de la Bible. De bonnes raisons, d'abord, intellectuelles de croire à l'existence de Dieu. Et dans cette première partie, nous essaierons de mettre en avant les indices scientifiques, notamment, qui plaident pour ce qu'on appelle un dessein intelligent, un créateur même. À l'opposé des croyances du naturalisme, c'est-à-dire de cette théorie très en vogue aujourd'hui, qui affirme que tout est né et s'est construit par hasard, naturellement, sans impulsion. Avec, je pense, de belles choses à dire ici pour proclamer l'existence de Dieu. Mais on s'arrêtera là avec cette première partie. Et c'est dans la deuxième, une fois embarqué dans cette croyance en un Dieu créateur, que nous verrons des raisons intellectuelles toujours pour le Dieu de la Bible, pour le Dieu des chrétiens. Avec ici notamment la réflexion sur la question historique de la fiabilité des manuscrits bibliques, qui est bien sûr une question pivot, mais aussi avec une plongée dans la cohérence de la révélation globale de toute la Bible. C'est une preuve forte également à mon sens, cette cohérence du début à la fin. Et puis enfin, en nous arrêtant tout particulièrement sur la résurrection, le fait historique qui témoigne pour nous de la vérité chrétienne. Puis ensuite, dans la troisième partie, nous prendrons une autre voie, autre que la science ou l'histoire, et nous nous attacherons aux raisons morales qui peuvent nous indiquer d'abord que Dieu existe, avec notamment le concept philosophique que je trouve très convaincant de ce qu'on appelle l'obligation morale. On en parlera. Puis les raisons morales qui nous feront pencher pour le Dieu de la Bible. Et nous pourrons parler à ce moment-là de la personnalité, de l'enseignement du représentant de la foi chrétienne, à savoir Jésus, en comparaison avec ceux des autres religions. Mais nous verrons aussi, et surtout j'ai envie de dire dans cette partie, la question de la croix, et de pourquoi elle est la meilleure, voire la seule réponse valable et acceptable qui ait été un jour apportée à la question si centrale et si souvent posée du mal et de la souffrance. Enfin, dans une quatrième et dernière partie, nous nous arrêterons sur les raisons expérimentales, je ne trouve pas de meilleur mot, en faveur de l'existence de Dieu et de la foi chrétienne. Alors ce sera sans doute un peu plus particulier de parler d'expérience quand on cherche des indices, parce que par définition les expériences sont subjectives. Mais nous verrons qu'elles n'en sont pas moins réelles, et même que, selon mon point de vue en tout cas, prises dans leur globalité, elles peuvent nous apporter un certain éclairage objectif et donc offrir un poids supplémentaire à notre faisceau d'indices. Voilà, 4 points pour nous donner de bonnes raisons de croire. Et pour venir, je le répète, crédibiliser notre foi pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Mais, bien entendu, et je reviens maintenant à ce qu'on disait au début, il y aura encore une grande différence entre crédibiliser la foi et avoir la foi. Et il est bien de le répéter encore une fois avant d'entrer en profondeur dans ce thème. L'apologétique n'est pas la foi, on est bien d'accord. L'apologétique aide à la foi, je le crois sincèrement, mais elle ne la remplace pas. La foi reste un acte de l'esprit, du cœur et de la volonté qui nécessite un pas de foi. Et quelque part, même si c'est parfois un peu pénible, notamment sans doute pour les esprits cartésiens parmi nous, je trouve ça tellement cohérent. Je trouve que cela montre tellement bien la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu qui révèle beaucoup, mais pas tout, pour venir en fait susciter chez nous une démarche motivée par la liberté et par l'amour. Cette sagesse de Dieu qui vient laisser un espace vide entre la raison et la foi pour qu'il ne puisse être comblé que par notre désir de saisir Dieu et de le suivre. Un espace vide qui ne peut être comblé que par notre espérance profonde en ces choses que l'on ne voit pas, mais que l'on espère vraies. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas, disait l'auteur de la lettre aux Hébreux. Oui, à un moment ou à un autre, devant notre faisceau d'indices, il faut librement, c'est-à-dire sans être contraint, même par l'infaillibilité de raisonnement ou de preuve, il faut librement vouloir se saisir du Dieu qui se révèle dans la Bible. Il faut lui dire « Je veux croire en toi ». Et c'est bien sûr effectivement toujours cela qui sera premier, cette foi de l'enfant qui choisit de s'abandonner au bras de son père. Et dans tout ce qui est dit ou dans tout ce qui sera dit, cela doit évidemment rester au centre. Mais néanmoins, au cœur de cela, pour nous-mêmes et pour notre prochain, continuons à défendre notre foi avec conviction. Et cela nous conduit maintenant naturellement à notre dernier point ce matin. Avant de nous plonger les fois prochaines dans des arguments apologétiques, qui, je l'espère donc, nous donneront quelques pistes de réponse face à ces questions difficiles que l'on nous pose souvent. Avant cela, disons quand même, puisque les auteurs bibliques le soulignent régulièrement dès qu'ils parlent de notre témoignage, disons quand même quelques mots sur certains comportements préalables qui seront bienvenus pour avoir une défense de sa foi efficace. J'en relève très rapidement trois qu'on trouve dans les textes de Pierre et Paul qu'on a lus dans l'introduction. Il y a tout d'abord cette sagesse que mentionne Paul. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Alors, de quelle sagesse parle-t-il ? Eh bien, pour ma part, je la comprends comme cette sagesse que lui-même a utilisée au milieu de l'aréopage. Cette sagesse qui, au lieu de leur tomber dessus à tous ces Athéniens profondément idolâtres, cette sagesse qui est partie de ce qu'il y avait de bon dans leur croyance, à savoir leur volonté d'honorer la divinité. Pour créer des ponts, tout simplement, pour renverser les barrières culturelles ou religieuses, pour se faire tout à tous, comme il le dit plus loin, afin d'en gagner le plus grand nombre. Sans doute, nous aussi, dans la défense de notre foi, nous faut-il grandir dans cette même sagesse qui apprend à rejoindre l'autre là où il en est dans ce qu'il croit, avant de vouloir l'amener plus loin. Et puis ensuite, nous pourrions relever la notion d'humilité et de respect, comme le souligne Pierre cette fois. Et c'est un peu une évidence, n'est-ce pas ? Quoi de pire, en effet, qu'une attitude suffisante et méprisante face aux interrogations de l'autre pour le dégoûter d'en savoir davantage sur le Dieu qu'on proclame ? Mais je crois que c'est quand même un risque assez facile pour nous de nous sentir un peu supérieurs dans nos croyances et de regarder avec un certain dédain les conceptions ou les interrogations erronées de l'autre. Et c'est pour ça que, particulièrement ici, me semble-t-il, oser se confronter à nos propres doutes, comme on le disait tout à l'heure, pourrait avoir des vertus insoupçonnées. Car en reconnaissant l'existence des difficultés et en les examinant honnêtement pour nous-mêmes, nous serons plus à même de comprendre et de respecter celles de ceux qui nous entourent. Et puis enfin, le dernier point qui est soulevé par Pierre encore sera simplement celui de notre marche avec Jésus. Cette marche qui nous appelle à garder notre conscience pure. Cette marche qui nous appelle à adopter une bonne conduite qui découle de notre consécration au Christ, comme il est dit dans le texte. Et oui, nous le sentons bien sûr. Le préalable à tout témoignage est bien évidemment une vie qui témoigne d'elle-même, par son obéissance à la parole de Dieu, par sa manifestation concrète de l'amour du prochain. Et si ce n'est pas le cas, comme le disait joliment un poète, nos actes parleront de toute façon si fort que personne ne pourra entendre ce que nous disons. Oui, parce que notre façon de vivre sera probablement, pour beaucoup de nos contemporains, la seule prédication qu'ils entendront. Vivons notre vie dans une vraie dynamique céleste, c'est-à-dire centrée sur le Christ en tout temps et en toute chose. Comme le résumait saint François d'Assise, témoigner en tout temps, si nécessaire, utiliser des mots. Voilà, sagesse, humilité et respect, consécration, voilà quelques ingrédients pour une défense efficace. J'en arrive à la conclusion. Et une conclusion qui me permettra de dire que peut-être vous vous sentez, comme moi, bien insuffisant pour cette tâche. Quand même. Nos comportements ne reflètent sans doute pas toujours parfaitement ce qu'ils devraient refléter. Notre apologétique est bien souvent balbutiante. Et trop régulièrement, nous ne trouvons qu'après coup ce qu'il aurait été pertinent de dire. Moi, je sais que c'est toujours comme ça. Et puis, on l'a dit, c'est si difficile de saisir les bonnes occasions. Surtout aujourd'hui, dans notre société si laïque, si sécularisée, qui ne veut pas vraiment entendre parler de Dieu. Alors oui, c'est vrai, on aimerait bien parfois envoyer paître Pierre, Paul ou Jacques même, avec leurs beaux discours, et leur expliquer que c'est plus dur de défendre sa foi au XXIe siècle qu'au premier. Oui, on pourrait, mais même si c'était vrai que c'est plus dur, et c'est discutable bien évidemment, je crois que les apôtres ne nous laissent pas, que la Bible ne nous laisse pas cette alternative. Nous sommes appelés à justifier notre espérance. Chacun avec son tempérament, chacun avec ses dons, bien sûr, chacun avec ce qu'il est, mais nous sommes tous appelés à cela d'une manière ou d'une autre. Alors, comment persévérer dans cette direction sans nous décourager? Eh bien, je dirais d'abord, comme à chaque fois, en apprenant à dépendre de Dieu pour cela, en nous attendant à lui, en nous appuyant sur lui pour cette œuvre, afin que lui-même agisse à travers nous. C'est toujours cette belle combinaison de notre propre détermination portée par l'action de Dieu prioritaire en nous. Comme le dit Paul, voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. Et puis aussi, persévérer en prenant conscience que dans cette difficulté de la défense de notre foi, eh bien, nous sommes ensemble. Et moi, ça m'encourage. Voir que cela est concrètement notre volonté ensemble, comme c'est apparu, j'y pensais, dans le renouvellement de notre vision d'Église, ça, c'est une chose qui m'encourage. Et d'ailleurs, puisque c'est, en parlant de cette vision d'Église, puisque c'est un engagement commun que nous avons pris ensemble, je me disais que c'était bien de terminer par cela, en relisant ces quelques mots liés à notre témoignage, qu'ils puissent être notre détermination en Église. Au cœur d'une relation vivante avec le Dieu d'amour, fondée dans la grâce de Jésus-Christ et unie par le Saint-Esprit, nous nous engageons tous ensemble à vivre en témoin du Christ. Nous voulons annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous voulons aller sans crainte, avec douceur et respect à la rencontre de notre prochain, dépendant de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Oui, puisse Dieu nous accompagner dans cette route pour cette nouvelle année scolaire qui démarre et pour notre vie. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.